Je suis tombé il y a quelques temps déjà sur une vidéo. Des fois, j'aime bien regarder des vidéos. Et je vais vous la synthétiser. C'était un portraitiste médico-légal qui s'appelle Dove aux États-Unis, qui a travaillé pour la police, la CIA. Et après, il a fait un jour une expérience sur ce que les femmes, comment se décrivaient certaines femmes. Alors, il avait sélectionné quelques femmes qui ne savaient pas ce que lui faisait et ce qu'il avait dans l'idée. C'est-à-dire que il était dans un coin de pièce, séparé par un voile. On ne voyait pas ce qu'il faisait, elle ne savait pas ce qu'il faisait. Et les femmes défilaient, s'asseyaient, lui posaient des questions sur leur anatomie. Comment est votre visage, votre manteau, votre nez? Et elle répondait en fonction de ce qu'elle savait d'elle. Et lui, il dessinait un portrait. À la fin, la personne partait sans se voir, et une autre personne venait qui ne connaissait pas du tout la femme et qui l'avait vue quelques minutes, quelques secondes. Et il faisait la même chose. Il demandait à cette personne: comment avez-vous vu cette personne? Le menton, les yeux, etc. Et lui faisait un deuxième portrait. Et quelques femmes se sont succédées comme ça. Et à la fin, il avait donc deux dessins, deux portraits. Un décrit par la propre personne et l'autre décrit par une tierce personne. Et on voyait quand même sur ces dessins, c'était impressionnant, je passerai la vidéo, qu'il y a une différence énorme où là, les teintes sont mornes, sont pas du tout dans la réalité de ce que la personne se voit, et plus épanouie de ce qu'une autre personne, ce que la deuxième voyait. Et c'était impressionnant. Et j'ai pensé à ça pour enchaîner sur la création. Comment on se voit? Comment on voit la création de Dieu? Est-ce qu'on le remercie? Est-ce que quand ça va, quand ça va pas, il y a quand même la création. Même si le monde a été déchu, c'est quand même assez grandiose tout ce qui a été fait. Et donc je vais vous lire dans Genèse au chapitre 1er, versets 26 à 28. Puis Dieu dit: faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, et il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit, et Dieu dit: soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, et assujettissez-la, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre. Je pourrais dire que ce titre de ce partage, c'est: nous avons été créé pour être enfant de Dieu. C'est quelque chose de très important dans notre vie et dans notre témoignage. Nous apprécions pas toujours qui on est, qui nous sommes, et nous ne sommes pas toujours dignes. C'est quand même quelque chose d'humain et entre guillemets de normal. Mais Dieu est un créateur et c'est un Père aimant. Le Père parce qu'il est créateur. Et c'est ce message qui dit que le cœur du Père veut nous restaurer dans notre identité. Le cœur du Père veut nous accompagner dans notre quotidien. Et il y a le cœur du Père qui a notre destinée dans ses mains. Le cœur du Père veut restaurer notre identité. Alors, l'homme a été créé dans le texte, c'est non le fruit d'une évolution, donc, mais le fruit d'une création. Ce n'est pas du hasard. L'homme est fait à l'image et à la ressemblance de Dieu. Alors si Dieu est infini, c'est vrai que l'homme, ce que nous sommes, l'homme et la femme, nous sommes limités. Et si les éléments de la personnalité que Dieu nous a créés sont analogues à lui, nous avons, ce qui est analogue à lui, l'intelligence, la sensibilité, la volonté. Différent du monde animal. Et nous sommes faits de corps physique, de l'âme, qui est tout siège émotionnel, et de l'esprit, j'allais dire, qui est indestructible, qui est éternel. Voilà la ressemblance en Dieu, elle est d'ordre spirituel. On va savoir qu'il n'est pas, charnel. La Bible, dans Jean 4, au verset 24, il est dit « Dieu est esprit ». Donc voilà, cette ressemblance est d'ordre spirituel. Dans la vidéo dont je vous ai parlé tout à l'heure, les femmes qui regardaient leur portrait, qui étaient étonnées, faisaient des réflexions. Il y en a une, à un moment donné, qui a dit « Nous passons beaucoup de temps à analyser et à tenter de corriger les choses qui, en fait, sont bien. On devrait passer plus de temps à apprécier ce que nous aimons. » Effectivement, nous avons tous un héritage, une histoire, beaucoup d'autres choses, le péché, beaucoup de choses qui nous ont masqué, en fait, cette réalité de notre identité et qui nous empêche de voir notre valeur, la réalité de la valeur telle que Dieu nous voit, lui, et telle que Dieu veut que nous nous voyons aussi. Jésus-Christ s'est identifié dans notre identité. Et pendant son ministère, il a toujours mis en valeur l'homme et aussi la femme. La femme, même si aujourd'hui il y a encore des... Je n'ai pas du tout de débat sur l'homme et la femme. Hein, parce qu'il y a beaucoup de tensions qui sont à propos de ça, mais il n'a jamais dévalorisé la femme et l'homme. Il les a toujours essayé de les élever. On voit jamais l'inverse. Il a fait toujours en fonction de ce que nous sommes. Et quelles que soient nos conditions, nous venons. On parlait de la femme prostituée, il était à côté. Et même s'il y avait des pharisiens, il était aussi devant, hein, même si eux, ils croyaient tout savoir. Et si la religion, le légalisme nous disent « Ne fais pas ceci, il faut faire comme ça, non mais là c'est comme ça, Dieu n'est pas mathématique. » Et si la religion c'est une guide de nous imposer comme ça, comme ci, comme ça, Jésus, il nous dit « Tu viens comme tu es. » Parce que tu es une créature, tu es une personne merveilleuse aux yeux de Dieu et tu as une valeur. Et je vais te la montrer. 2 Corinthiens, au chapitre 5, et au verset 17. Il est dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est à nous, auprès de lui, de laisser Dieu ouvrir les yeux de notre cœur pour vouloir croire ce que le psalmiste aussi dit dans le psaume 139, 14. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est une reconnaissance et un respect à la création de Dieu, de dire que nous sommes merveilleux et de prendre autorité sur une puissance du mal qui veut nous dire l'inverse. Le cœur du Père nous accompagne dans notre quotidien. Jésus-Christ a rétabli la relation entre Dieu et les hommes. Il a tout accompli à la croix. Et c'est le seul moyen. C'est par Jésus. Je suis le chemin, la vérité, la vie. Pour celles et ceux qui croient. Et Dieu aime cette relation continue avec nous. Tout à l'heure, on a entendu l'intimité. Mais c'est quelque chose de merveilleux. C'est qu'à chacun, on peut avoir notre intimité. Parce que moi, vous ne me connaissez pas. Vous ne savez pas ce qu'il y a dans ma tête. Vous pouvez me connaître. Moi, je ne vous connais pas non plus. Mais Dieu connaît. Et il veut cet échange. Et il prend plaisir à cet échange qu'on n'a pas toujours ou qu'on ne veut pas. Je vais... Parce que des fois, on est formaté. Et ces échanges... Ce n'est pas les prières religieuses
théâtral, j'ai rien contre les prières religieuses théâtrales, c'est pas du tout un procès que je fais ni jugement, croyez-le. Mais notre discussion, Rachel, tu as parlé, des fois c'est intérieurement, là je vais faire quelque chose, Seigneur, qu'est-ce que tu en penses? Mon père, qu'est-ce que tu en penses? Voilà, des petits trucs, des flashs comme ça, mais régulièrement. Et on est toujours connecté avec lui. On n'est pas forcément quelqu'un de très orateur, mais c'est pas ce qu'il cherche, il veut. Là, notre cœur, ce qu'il y en a dans notre tripes. Et il aime aussi que nous passions du temps avec lui, que nous prenions du temps, même 2 minutes. Mais il n'y a pas d'obligation religieuse. Parce que il est content de devoir nous échanger. Mais si demain, mais non, j'ai pas envie de te voir, je veux regarder le match de foot. J'aime bien l'OM, alors je regarde le match de l'OM. Mais vas-y, mon enfant, ça, je suis dans la joie de te voir, heureux de regarder l'OM, surtout quand il gagne. Dites-moi pas ça, hein. Il n'y a pas d'obligation de se mettre à genoux en chronométrant, non, pas du tout. C'est ce que l'on veut, et quand on veut, il nous accueillera toujours et ne nous fera pas de reproches si on profite. Il aime que nous nous rendre heureux, il veut que nous soyons heureux, que nous profitions des bons moments de la vie. Hein? Un bon repas, famille, les loisirs, il ne nous fera pas de reproches là-dessus. Il est dans la joie. Dans Hébreux, au chapitre 4, et il nous écoute aussi quand on a nos soucis, nos questions. Hébreux 4, au verset 13, il dit « Nulle créature, excusez-moi, n'est cachée devant lui, mais tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. » Ça peut faire peur, hein? Vous pourrez visualiser tout ce que je pense, tout ce que vous pensez, comme tout le monde. Mais je dirais heureusement qu'il voit tout, hein? Parce qu'au moins, il sait comment faire, hein? Parce que s'il savait rien, mamma mia. Le péché, l'orgueil, notre désir d'indépendance, vraiment des conséquences dans notre vie. Et c'est souvent des souffrances, des insatisfactions, des découragements. Ça fait partie, nous ne sommes pas parfaits, il nous arrive d'avoir des manquements. Et il veut qu'on sache qu'il ne nous rejettera jamais. Et il y a un verset dans Ésaïe 42, il y avait un pasteur, Joseph Prince, qui j'écoutais, qui avait fait une petite des remarques là-dessus. Il ne brisera point le roseau cassé, il n'éteindra point la mèche qui brûle encore. Dans ce passage-là, parce que lorsque on n'est pas ce pasteur, il disait qu'il avait été en Israël, il disait des roseaux, parce qu'on voit ça, c'est en Israël, ça se passe. Des roseaux, il y en a partout. Et ce qu'ils font, les enfants, des fois, les gamins, ils coupent ces roseaux, et ils en font des flûtes. Ils font des petits trous, ils font des flûtes. Et puis des fois, la flûte, quand le roseau est fendu, tout ça, ça ne fait plus. Alors, il y en a beaucoup, alors ils jettent. Puis ils en font un autre, des roseaux, il y en a partout, des roseaux. Et les lampes, c'était lampes à huile, où il y avait des mèches en lin, c'était des petites... en lin qui trempaient, et ça cramait, tant qu'il y avait de l'huile, il y avait la lumière. Et dès qu'il y avait plus d'huile, qu'est-ce que ça fait? Quand ça prend l'eau, qu'est-ce que ça fait, la mèche? Elle fume. Alors c'était rien, prenez le petit morceau de tissu, jetez, d'un problème à l'autre. Mais Dieu ne fait pas comme ça. Parce qu'on peut être cassé, brisé par les événements de la vie, on peut être courbé, on peut avoir, on peut être le lumignon qui fume par le péché, par notre droiture qui a pris le coup, mais il ne le jugera pas. Peut-être que même dans le monde des chrétiens, il y en a qui vont nous juger. Légalistes. il est écrit. Mais Dieu, non, il ne fait pas comme ça. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas reprendre les gens. Mais il nous accueille. Il ne nous rejettera jamais. Et quand on vit des moments comme ça, laissons-le nous aimer tel qu'il veut. Parce que aimer notre relation avec Dieu, c'est aussi, que je me dis, c'est quelque chose que tous les jours de ma vie, je vais travailler. Et de me dire que jusqu'à la fin de ma vie, ou peut-être le retour du Seigneur qui nous enlèvera, mais en tout cas, dans tout ce que Dieu a prévu de ma vie, ce que je veux, c'est faire tous les jours des progrès. Je ne suis pas parfait, et vous ne l'êtes pas non plus. Ce n'est pas un reproche, encore, mais c'est que nous sommes toujours en chemin. On aura toujours à dire sur les gens. Mais tous les jours que je veux faire du progrès, on peut le faire, et Dieu changera notre vie de gloire en gloire. C'est une assurance. Je ne peux pas vous l'expliquer plus, c'est qu'il faut le vivre. Le cœur du Père. Le cœur du Père a notre destinée entre ses mains. Alors, qu'est-ce que c'était que la grâce? Vous vous souvenez?
Un cadeau.
Un cadeau.
Ce qu'on ne mérite pas.
Voilà, c'est obtenir quelque chose qu'on ne mérite pas. C'est vrai. La grâce, elle ne nous coûte rien d'autre que de placer sa confiance en lui, en Dieu. La grâce. Elle nous permet de faire beaucoup. Et de faire des choses qu'on ne pourrait jamais faire tout seul, avec nos efforts stériles et nos luttes et nos souffrances. Parce que sans Dieu, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'on veut faire toujours à notre idée. Et qu'est-ce que ça aboutit? À la frustration. C'est vrai que je vais dire le premier, hein, je veux faire comme ça, et je ne suis pas d'accord, moi, avec les événements. Vous vivez les événements que l'on vit. Dieu est aux commandes. Et c'est sa grâce. Même Paul, quand il souffrait, dit, ma grâce te suffit. Ça semble pas juste, des fois, humainement. Hein. On aimerait hein, que... Vous savez, on a une vie nouvelle naissance, c'est-à-dire... On a rencontré Jésus-Christ, on veut le suivre. Il y a un début, ça c'est Charles Meyer qui disait ça. Et il y a une fin où on sera glorifié par Dieu. Mais par contre, il y a un intermédiaire qui n'est pas toujours jojo à voir. Hein. Mais il faut y aller, il faut passer. De toute façon, on ne va pas faire marche arrière, hein. On est obligé de continuer. Oui, nous avons du mal à compter toujours parce qu'on aime bien notre indépendance. C'est quelque chose de formaté. Mais Jésus change tout ça. Et la grâce, c'est vrai que c'est une puissance du salut, celle qui nous sauve. Parce que Jésus, Dieu nous a sauvés par grâce et par le moyen de la foi. Certes. Mais la victoire que nous avons hyper grandement besoin tous les jours de notre vie, de tout ce que nous rencontrons, de notre, entre guillemets, ordinaire, vient aussi par la grâce de Dieu. Et nous le faisons par la grâce de Dieu. Ça, faut le savoir. Il n'y a pas que le salut, il y a aussi ce qu'on vit chaque jour. On peut le faire par la grâce de Dieu. Et Dieu fait beaucoup dans notre vie ordinaire. On peut souvent, des fois, imaginer, nous sommes des stars, non, notre vie au quotidien. Et je vais, parce que c'est vrai qu'on n'a pas toujours l'impression que notre vie est réussie, ou on avait des projets, ils ne se font pas, et on a prié, et on peut vite se poser des questions. Attention à l'ennemi derrière. Gardons toujours le bouclier. Ne tournons jamais le dos. Et je me permets de synthétiser un témoignage. Sur c'était dans la deuxième, dans les années 1800, deuxième moitié du 19e siècle, il y avait un pasteur qui était en tournée et qui se déplaçait dans le Jura bernois. Il faisait froid cet hiver et s'arrêtait dans une auberge, un hôtel, pour passer la nuit et puis dîner. Et il avait l'habitude, au cours du dîner, vous voyez la jeune serveuse, et par son habitude, il dit « Avez-vous trouvé en Jésus-Christ la paix de votre âme ?» se moyenne toujours, on ne pouvait pas s'empêcher de parler de Dieu. Et cette jeune fille, elle était un petit peu gênée, c'était pas son truc. Et elle lui dit, mais oh, vous savez, vous parlez un peu comme notre vieux voisin. Il nous parle souvent notre âme. Mais là, maintenant, il est bien malade et vieux, et à ce qu'on dit, il va bientôt mourir. Alors le pasteur, il dit, mais est-ce que vous pouvez me conduire à ce vieillard, vers ce vieillard? Elle l'a conduit. Et quand il est arrivé chez lui, cet homme était vieux, alité, malade. Un ancien paysan. Et il dit, c'est un ami chrétien qui vient vous voir. Et ils ont commencé à échanger, à parler. Et les discussions sont vite devenues un petit peu plus intimes. Et le vieux paysan disait, vous savez, je peux mourir maintenant en paix, dans la grâce de mon Seigneur. Il a toujours, toute ma vie, même si ma vie était très modeste, je n'ai manqué de rien. Il a toujours été bon avec moi. Tout ce que je lui ai demandé, il me l'a donné. Toutes mes prières, il les a exaucées, à part une. Le pasteur lui dit, mais quelle est cette requête qui ne vous a jamais exaucée? Alors le vieux monsieur a dit, vous savez, j'ai été touché par la grâce de Dieu, par le moyen d'un évangéliste qui s'appelait César Malan. César Malan était un pasteur qui a fait pas mal de livres, de traités, de cantiques. Et je crois que c'est en Suisse, il est de Suisse. Et il disait, j'ai économisé pour essayer de faire ce voyage qui était long, coûteux, et pendant des années. Et quand j'avais assez d'argent, il y avait toujours quelque chose. Un bétail qui mourait, une lagrelle, enfin, il y avait une épidémie. Il y avait toujours quelque chose et j'étais obligé de prendre sur mes économies. Et je n'ai jamais, jamais pu me déplacer pour aller le voir. Je sais que j'ai la reconnaissance à Dieu uniquement, mais je voulais témoigner aussi de ma reconnaissance auprès de ce pasteur qui m'a fait beaucoup de bien et qui m'a aidé à trouver le chemin de Christ. Mais voilà, les années ont passé et je ne peux plus voyager. Je suis malade et vieux et je vais bientôt mourir. Et ce vieil homme pleurait. Alors le pasteur le regardait, il était un petit peu désemparé et ému de le voir comme ça. Alors il lui a pris les deux mains comme ça et il a dit, mon cher ami, Dieu est bon. Croyez que vous avez été exaucé sur votre dernière prière parce que je suis César Malan. De la même manière que nous avons accepté Jésus comme notre Sauveur et Seigneur, nous devons vivre tous les jours de la même façon, quelle que soit notre vie, ce que nous espérons, que nous n'avons pas, dans une totale confiance et indépendance avec lui. Notre vie ordinaire, ce qu'on peut dire ordinaire, c'est une vie précieuse. Tout ce que nous traversons est précieux. Et Dieu est là, commande. Et en son temps, il fera les choses.